Chapitre 4. La nuit n'était pas encore tombée lorsque je sortis de la gare de Mâcon. Je ne sais rien de plus pénible que d'arriver ainsi, le soir, dans une ville qu'on ne connaît pas. Il y avait beaucoup de monde devant la gare, car c'était un dimanche, et les gens rentraient de la campagne. Je demandai où était le centre de la ville. On me répondit avec froideur. À Paris, on m'eût répondu sans doute de la même façon, mais je n'y aurais pas fait attention. Tant de monde attendait le tramway que je décidai de partir à pied. J'allais dîner dans une brasserie où il y avait de la musique. Jamais je n'avais senti une telle détresse. La France avait l'air de vivre comme avant la guerre. Il y avait même dans les rues des groupes de jeunes gens qui chahutaient. Les cafés étaient bondés. Je lisais toutes sortes de noms, familiers aux habitants, mais qui n'évoquaient rien pour moi. Je cherchais un hôtel, ils étaient tous complets. J'avais désiré de toutes mes forces quitter Paris et maintenant que j'étais parti, je ressentais un vide affreux. Cela me causait une impression bizarre qu'on pût se dire « il n'est plus là » et que cette constatation ne changea rien aux habitudes de tous. Je voyais mes amis se réunir sans moi. Mon absence ne provoquait pas de grands regrets. « Il a voulu partir » disait-il, et je sentais que dans la misère qu'il subissait, il ne pouvait me désapprouver d'avoir cherché à m'y soustraire. Mais il m'en tenait cependant rigueur au fond d'eux-mêmes. On le sentait à l'indifférence qu'il montrait pour ce qui m'arriverait. Et il m'était pénible de sentir que si vite je n'inspirais plus d'intérêt et que je ne devrais compter que sur moi-même. Tous ces gens, bien que je les eusse quittés de la façon la plus correcte, bien qu'ils m'eussent sincèrement souhaité bonne chance, m'avaient brusquement oublié. Ils ne me voulaient pas de mal. Ils eussent même joué la comédie de la tristesse s'il m'était arrivé quelque chose, mais en réalité ils s'estimaient déliés de tout devoir envers moi. N'avais-je pas voulu partir? Ce sentiment accroissait ma solitude. Maintenant, j'étais parti. J'avais abandonné tout le monde, croyant n'abandonner personne. En partant, il m'avait semblé que ce n'était rien de ne compter que sur soi-même, persuadé que j'avais toujours été seul. J'aurais voulu parler à quelqu'un. On m'avait demandé souvent « Pourquoi restez-vous à Paris ?» Je le comprenais à présent. J'avais cru que c'était parce que c'était plus facile de se cacher dans une grande ville. Mais non, c'était parce que j'étais un Parisien, que j'avais des parents et des amis. Le lendemain après-midi, je pris un petit train pour me rendre dans un village proche de la ligne de démarcation. Quand le soir commença de tomber, ma détresse accrut encore. J'apercevais du wagon le ciel orangé, ciel immense que j'avais oublié. Chaque kilomètre me faisait du mal. J'aurais voulu pouvoir retourner. Je songeais au village inconnu où j'allais descendre. Rien ne donne plus une sensation d'abandon que ces arrivées dans des petits endroits où nous sommes les seuls à être des étrangers, où personne ne nous attend et où, pour ne pas attirer l'attention, il faut avoir l'air de savoir ce que nous sommes venus faire. Nous entrons dans le premier café. Jusque-là, tout va bien. Les gens du pays eux-mêmes y entrent. Mais au bout d'une demi-heure, lorsque nous voyons les cafetiers mettre leurs couverts, commencer à vivre pour eux et que nous restons toujours là parce que nous ne savons où aller, nous commençons à être pris de panique. Que dire si l'on nous demande quelque chose ? Le café se vidait, je me sentais mieux. J'étais incapable de dire d'où je venais, mais je savais où j'allais, et je pouvais en parler indéfiniment. « Vous attendez Gustave ?» me dit le patron du café de cet air des gens qui se demandent si une simple parole peut les compromettre. Je répondis oui. « Il va venir, » continua le patron. Je l'invitai à boire avec moi. Je sentis alors que le plus dur était passé, que de nouveau je n'étais plus seul, qu'une petite vie avec ses habitudes venait d'éclore, et je ressentis un immense soulagement. Ce n'était plus le vide du voyage. Je renaissais après un trou de 2 journées entières. Je sentais que peu à peu, sans avoir rien dit, simplement parce que j'avais l'air perdu, j'inspirais confiance. La patronne vint se planter devant moi, me demanda si je voulais manger quelque chose, comme si elle comprenait que j'avais faim. Que je venais de ville où l'on ne pouvait demander à manger, mais qu'ici, ce n'était pas la même chose. Des gendarmes entrèrent. Ils ne me regardèrent même pas. Ils étaient merveilleux, ces gendarmes, par leur indifférence. Ils ne voulaient pas savoir qui j'étais. Ils n'étaient plus en service commandé, et tout en eux respirait la joie de cette détente, de cette possibilité de n'avoir plus à s'occuper de personne. Enfin, ils pouvaient être eux-mêmes et montrer ce qu'ils pensaient. Je les invitai aussi à boire, je leur dis que je venais de Paris, et cela leur parut tout naturel. Ils me demandèrent ce qui se passait là-bas. J'avais un peu bu. J'étais dans un état d'optimisme que je trouvais de plus en plus naturel. Je me sentais sauvé. Le plus difficile était fait. En compagnie de Gustave, je passais sans anicroche la ligne de démarcation. Dès que je fus arrivé à Lyon, je me rendis dans un petit hôtel misérable, glacé, mal tenu, et dont le patron se croyait devenu une sorte de protecteur des patriotes. Quand je lui eus dit que je venais de la part de Boisboissel, il parut ne pas se souvenir de ce dernier. Il me tendit tout de suite une fiche à remplir. J'hésitais. J'étais en règle, mais j'aimais mieux demeurer inconnu. C'était un homme qui avait pourtant rendu de grands services à beaucoup de Français. Mais je sentis que j'arrivais trop tard, qu'il y avait trop longtemps que ça durait. L'enthousiasme du début était tombé. Les gens qui partaient, qui vivaient en marge, que la police recherchait, ne l'intéressaient plus. Et le signe le plus frappant de ce changement était que cet homme commençait à voir partout des ingrats, des gens qui, une fois en sûreté, se moquaient de le compromettre. J'eus beau lui dire que je n'étais pas de ceux-là, il me regarda avec froideur. Ce qu'autrefois il aurait fait de lui-même, et dès le début, il ne le faisait qu'à la longue. Boisboissel avait pourtant fait beaucoup pour lui. Je me demandais ce que Boisboissel aurait pensé en entendant celui dont il m'avait tracé un portrait si flatteur dire « Il peut le faire, mais pas moi ». Je montai dans ma chambre un peu démoralisé. On aurait dit qu'on y avait mangé des œufs durs. C'était le plâtre du plafond qui tombait. Le soir, quand je descendis, j'essayai de donner à nos relations un ton plus cordial. Mais le patron parut ne pas me reconnaître. Il savait que j'avais besoin de lui, mais il ne faisait rien. J'étais un client comme les autres. Je résolus de quitter cet hôtel et d'aller à l'autre adresse. Elle est vraiment extraordinaire, l'inutilité de ces adresses que les gens donnent. Je commence à comprendre qu'au fond, il n'y avait jamais d'adresse. Ces recommandations n'ont pas de valeur car nos amis oublient que ce qui a été fait à un moment ne sera pas nécessairement refait plus tard. Je passai 3 jours dans cet hôtel dont le patron était intime avec l'un de mes amis et j'y fus constamment un étranger. On ne voulait pas me connaître. Je n'arrivais pas à me décider à quitter Lyon. Venu de Paris à Lyon, c'était naturel, normal, mais continué. Il me semblait que dès que je me rapprocherais de la frontière espagnole, la surveillance serait plus sévère. Je flânais toute la journée dans les rues. Il faisait un temps magnifique. Au soleil, j'oubliais mes nuits lamentables. Mais dès que le soir venait, je me les rappelais et je devenais sombre. J'aurais voulu ne pas me coucher, mais que faire? Le matin, j'entendais les tramways. L'évocation d'une nuit qui continuait me frappait beaucoup. J'aurais voulu trouver quelqu'un qui vint avec moi. Je demandai au fils de l'hôtelier de me suivre, puis un autre jeune homme. Mais il se passait chaque fois la chose suivante. Après avoir paru ne désirer que cela, après m'avoir dit comme ils seraient heureux de partir avec moi, quand ils étaient au pied du mur, ces jeunes gens hésitaient puis se dérobaient. Ce n'était pas qu'ils eussent peur, mais il leur semblait qu'en attendant, comme à moi quand j'avais été prisonnier, ils trouveraient mieux.